Voilà, eh bien, bonsoir à chacune et chacun, bienvenue. On demandait un soir, un jour, un couple de jeunes fiancés demandait à un prêtre, est-ce que c'est vrai ce que disait Saint-Exupéry, que s'aimer ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction? Le prêtre dit oui, sauf si c'est la télévision. Voilà. Eh bien, la contemplation, c'est ça. C'est un regard porté dans une certaine direction, on va le voir, un regard qui vient combler le cœur, l'intelligence, qui vient combler la vie, combler tout notre être, un regard qui transfigure tout, qui transforme tout, qui unifie intérieurement. Alors, on va essayer de voir dans un premier temps qu'est-ce que ça signifie la contemplation, d'où ça vient et comment cela se développe, de voir aussi quels sont les obstacles à la contemplation, de voir comment la contemplation a été abordée par les philosophes d'abord, puis ensuite par les théologiens, et ensuite comment Saint François de Sales nous introduit à la contemplation à travers le traité de l'amour de Dieu. Et puis, on verra ensuite comment allier vie active et vie contemplative. Alors d'abord, la contemplation, dans l'origine, l'idée de contemplation remonte assez loin. L'étymologie, si vous voulez, il y a le mot « cum » en latin qui veut dire rassembler les choses, mettre avec les choses, unifier les choses. Et il y a le mot « temple »,« templum » qui est là, hein, qui ensuite sera redéfini un peu différemment. Mais au départ, étymologiquement, c'était les hospices, c'est-à-dire les prêtres de la religion romaine, qui définissaient d'abord dans le ciel un espace avec un bâton particulier, une sorte de lieu, et puis ou ensuite sur la terre, donc le templum sur la terre, un espace sur lequel ils allaient observer le comportement des oiseaux, des animaux, de voir dans quelle direction ils allaient voler et en déduire quelque chose pour le combat, pour la guerre, pour la richesse. Hein, donc il y avait l'idée de concentrer son attention sur un espace céleste ou terrestre, là où Dieu allait parler, là où quelque chose allait se passer avec les dieux. Par la suite, le mot a bien sûr élargi sa conception et s'est tourné autour de cette attention délicate du regard des yeux, mais du regard intérieur surtout, vers les grandes réalités, l'essentiel vers la vérité. Alors il y avait deux manières d'aborder cet aspect-là. Il y avait la raison d'abord, la raison qui est faite pour la vérité, la raison qui est ouverte à l'accueil de la vérité, et puis la foi qui nous fait accéder à la vérité dans toute sa plénitude, une vérité qui dépasse celle que la raison peut connaître, mais sans jamais la contredire. La foi vient perfectionner la raison, elle se greffe sur la raison, elle nous fait découvrir des vérités que Dieu lui-même peut nous révéler, qu'on accueille dans la foi, et qui parachève l'homme dans une plénitude, dans un bonheur de goûter intérieurement la vérité, telle que la raison peut l'accueillir et telle que la foi peut la recevoir. Donc il va falloir, dans Repentant la contemplation, à la fois un effort de raison, à la fois un effort de foi. Il va y avoir une lumière qui va être donnée, une lumière qui va me libérer des ténèbres et me faire accéder à cette plénitude de la vérité. Alors, le monde aujourd'hui est quand même en mal par rapport à cette contemplation. On pourrait définir trois grandes crises de la contemplation aujourd'hui, trois grands aspects. D'abord, le subjectivisme, le fait que je sois moi-même mon seul point de référence, qui est une crise de la vérité objective, qui est une crise, enfin, chacun pense ce qu'il veut, il y a plusieurs vérités, dit-on, et on verra un petit peu comment Jean-Paul Sartre a accentué cette crise, ou l'a cristallisée en quelque sorte, une crise de l'émotionnalité, le primat de l'émotion sur la raison, finalement, où ce qui va être important, c'est le ressenti et non pas la réflexion, non pas l'analyse, et puis le primat du faire sur l'être. Trois lieux qui vont en quelque sorte attaquer dans la racine même la crise de la contemplation et exclure en quelque sorte de la vie des personnes, comme de la vie du monde, l'attitude contemplative. Alors pour ce qui est de la crise du subjectivisme, c'est le père Raymonet, un dominicain qui racontait de Don Vermeil, je ne sais pas qui c'était, quelqu'un de très bien sans doute, on lui demandait comment il en était venu à une vocation contemplative. Et il disait « J'ai vu que les fleurs étaient belles et j'ai compris que je devais remercier quelqu'un ».